Bonjour et bienvenue à Portrait Vivant, l'émission radio qui esquisse un tableau en mouvement de la communauté artistique de l'École d'art de Sutton. Ensemble, allons à la rencontre des artistes, des jeunes créateurs et des œuvres qui façonnent cette institution incontournable du paysage culturel de l'Estrie. Je m'appelle Ayona, artiste en art visuel. Mon parcours m'a menée aux quatre coins du monde, guidée par une quête d'apprentissage et de rencontres. J'ai fini par m'installer ici, en Estrie, où je découvre une véritable boîte au trésor de personnes engagées, passionnées par leur travail, avec des valeurs d'entraide et de coopération. Aujourd'hui, suivez-moi alors que je découvre la 5e édition du Petit Salon du Livre, un événement intime et chaleureux à Sutton, qui célèbre la communauté littéraire de la région et au-delà. Quel épisode nous attend? Près d'une dizaine d'invités partageront leurs récits et leurs réflexions. Et comme toujours, les jeunes apporteront leurs propres perspectives, inspirées par leurs découvertes au salon. Nous aurons aussi la chance de découvrir la musique douce et thérapeutique de la harpiste Maryse Le Gagneur, ainsi que les notes enjouées des jazzistes Paul Morin et Normand. Pour commencer, je vous invite à rencontrer Jean-François Casabonne, comédien et auteur.
Moi, c'est Jean-François Casabonne, ami de Anne-Marie Lavigne. Je suis auteur, comédien, j'aime les mots. Je pense aussi que les mots m'aiment. Et puis, je suis excessivement reconnaissant parce que, bon, la légende dit, l'histoire dit que Anne-Marie aurait été inspirée par le livre que j'ai écrit « Je veux une plume », qui est l'histoire d'une petite fille qui veut tout de suite. Donc, c'est un livre sur l'impatience. Et puis, cette jeune fille, Ella, qu'elle s'appelle, voit un aigle et puis elle veut une plume de cet aigle-là. Et puis, bon, elle va vouloir la plume tout de suite. Et le livre est tombé dans les mains de Henri, le fils d'Anne-Marie. Anne-Marie lui a lu et puis, bon, et c'est vraiment, je trouve, comme un cadeau du ciel que cette idée lui soit venue de faire ça dans ce lieu absolument féerique, magique, cette ancienne crèmerie. Donc là, c'est comme on recycle le lieu, puis je trouve que là, il y a la crème des livres, et puis il y a toute cette couronne, ce cortège d'auteurs qui viennent, qui bordent le round top, mais qui viennent aussi de ce qu'on pourrait appeler le triangle un peu de la littérature, tu sais, parce que bon, il y a comme une espèce de synergie dans les cantons de l'Est où justement l'esprit s'incarne. Des fois, je dis le fameux proverbe « un esprit sain dans un corps sain », mais il y a vraiment ça qui se passe ici aux alentours. Et puis, je trouve que l'incarnation de ce petit salon du livre vraiment construit cette image de l'esprit qui se déploie, qui prend tout son envol, qui cherche vraiment les sommets de l'âme. Donc, là, j'ai écrit un nouveau livre qui s'appelle « Toute cloche ». Et c'est vraiment l'histoire d'un petit garçon qui est dyslexique. Et grâce à une amie, cette amie s'appelle Siri, elle va lui donner accès à l'amour des mots. Vital, qui s'appelle le petit gars, va découvrir l'amie secrète de Siri. Cette amie secrète, c'est la Dame de la Montagne, qui va, avec l'aide des papillons, avec l'aide de la nature, avec l'aide aussi de son esprit, je dirais, son humour, tout ça, va faire découvrir à Vital qu'il est un poète et que son handicap, en fait, son trouble dyslexique, va se transformer en une force, finalement. Donc, de sa faille va naître, je dirais, un avenue de beauté pour s'exprimer. Et il va aimer les mots. Il va les aimer au point de vouloir les partager. Donc, c'est un peu ça l'histoire de ce livre-là. Puis moi, je trouve que je suis encore privilégié d'être invité ici au salon, le petit salon du livre de Sutton. C'est magique. Quand on se promène, là, il y a comme cette colonne vertébrale de livres, cette grande table. Et là, il y a un aménagement où les enfants, tout le monde, finalement, peuvent lire là, dans des sofas, avec des lumières, tout est décoré. On dirait qu'on est dans un pays de fées de la littérature. Tous ces lutins, tous ces bouquins se déploient. C'est un arc-en-ciel de couleurs, un arc-en-ciel de mots. En tout cas, à chaque fois, l'année passée, je suis venu à chaque année, en fait, depuis 5 ans. Et puis là, ça s'annonce une très, très, très belle année.
Nous venons d'entendre Jean-François Casabonne partager avec passion son parcours et son dernier livre, Tout cloche. Une histoire touchante qui illustre comment transformer ses défis en force. Les enfants présents au petit salon ont découvert le sujet de la dyslexie à travers cette œuvre.
As-tu aimé quelque chose dans le livre?
En fait, parce que dans ma classe, il y a une personne qui fait de la dyslexie, puis je savais pas vraiment exactement c'était quoi, donc là, ben, je sais mieux.
Là, tu sais mieux. Toi, est-ce que t'es dyslexique?
Non.
Non, t'es pas dyslexique. Faut que tu mélanges pas de nez.
Non, non, moi, je suis une des meilleures de ma classe.
Non, non, mais ça, c'est super.
Ouais, c'est
super. Non, mais c'est super.
Il n'en
parlait pas, puis
elle avait...
Il y en avait genre deux que je connaissais. Donc oui, beaucoup, j'en ai découvert.
Ouais.
Désolée.
Les dents sont vraiment bonnes.
Est-ce que tu as aimé rencontrer les auteurs aussi qui écrivent des livres?
Ben, j'ai aimé, en fait, l'intonation qu'ils mettaient pour le lire.
Ouais.
Ils lisaient bien.
Poursuivons notre exploration du petit salon du livre avec Michael Timer, nouvellement copropriétaire de L'Échappée Belle, une librairie-café à Sutton.
Alors moi, je suis arrivé à Sutton pendant la pandémie en novembre 2020 et c'était quelques semaines avant l'ouverture de la première édition du petit salon.
Wow.
On m'avait parlé de l'école d'art, je suis toujours photographe, mais mon occupation première avant d'ouvrir L'Échappée Belle, c'était photographe. Et j'ai toujours, en tant que photographe, aimé m'impliquer bénévolement avec des organismes en culture. Je le faisais à Montréal et donc en arrivant ici, j'ai tout de suite contacté l'école d'art pour voir si je pouvais participer d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'ai participé comme photographe bénévole à la première édition du Petit Salon. J'avais aussi, moi, des livres de photos à présenter, donc j'étais aussi un des auteurs présentés au Petit Salon.
Oui.
Et à partir de là, mon lien avec l'école d'art, il a évolué, il a fait que se renforcer. J'ai commencé à donner des camps de photos, créer des animations et des ateliers pour les visites scolaires. La troisième édition du Petit Salon, j'ai lancé un balado pour aller à la rencontre des auteurs et faire des entrevues avec les auteurs présents au Petit Salon. Et cette année, je suis le libraire officiel du Petit Salon. Et tous les livres passent par L'Échappée Belle. Donc toutes les ventes de livres, tous les achats de livres qui vont être faits au Petit Salon passent par Le Monde Selon. C'est un livre pour les enfants. C'est
oui.
Une série de portraits d'enfants québécois, ou en tout cas vivants au Québec, mais qui viennent d'un petit peu partout, pour présenter la richesse de la diversité qu'on peut retrouver au Québec à des enfants.
Wow,
donc c'est des enfants qui parlent d'eux, ils sont photographiés en fait dans leur chambre, ils nous présentent leur univers. Et finalement, tous les enfants qui l'ont lu, ou c'est plutôt les parents qui m'en parlent généralement, ou les enseignants me disent qu'ils se reconnaissent beaucoup dans tel ou tel enfant. Et donc le côté finalement universel, un enfant c'est universel, je veux dire, qui viennent du Guatemala, du Congo ou du...
J'ai l'impression, vous me corrigez, mais j'ai l'impression que vous utilisez votre photographie souvent pour créer des liens.
Créer des ponts.
Créer des ponts, ouais. Et puis, ça donne, je pense, une opportunité aux gens qui lisent vos livres ou qui voient vos photos, en fait, d'être face à face à quelqu'un, en fait, peut-être
exactement.
Qui ne parlerait pas.
Exactement.
Et puis, ils sont là et puis ils découvrent.
C'est exactement ça, c'est comme ça que je le présente généralement.
Ah oui, ah,
c'est
ok.
De permettre de créer une rencontre qu'on n'aurait pas faite autrement, qu'on n'aurait probablement pas faite autrement.
Vraiment
que
intéressant.
Que ce soit sur le milieu de l'itinérance, sur le milieu de la déficience intellectuelle, l'autisme, la fin de vie. Vraiment, j'aime mettre en lumière des personnes ou des communautés ou des cultures à qui on donne peu souvent la parole et qui sont souvent aussi, je ne sais pas si c'est stigmatiser le bon mot, mais en tout cas envers lesquelles on peut avoir beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées préconçues, d'idées reçues.
Wow. Michael nous a partagé sa vision d'unir les gens à travers l'art et la littérature. Une démarche qui résonne avec mes propres valeurs, découvrir ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. Dans notre prochaine séquence, nous vous invitons à rencontrer trois auteurs et illustrateurs de livres pour enfants. Tout d'abord, Edith Cochrane, comédienne et autrice établie en Estrie, nous parlera de sa série créative qui met en avant l'imaginaire des enfants à partir d'objets du quotidien.
Je m'appelle Edith Cochrane, je suis comédienne, animatrice, metteur en scène et j'ai écrit un livre pour enfants qui s'appelle, en fait j'en ai écrit deux, il y a un troisième qui s'en vient. Le premier s'appelle « Derrière mon fauteuil », l'autre s'appelle « Sous mon lit » et le troisième qui va sortir au printemps s'appelle « Au fond de ma cour ». Donc c'est l'histoire d'un enfant, on ne sait pas si un garçon ou une fille, c'est non-genré, on est très actuel. Et donc c'est un enfant qui va découvrir derrière son fauteuil un objet du quotidien, un grain de pop-corn, un sou, bon. Chaque jour, il découvre quelque chose de différent et il va s'imaginer une histoire avec ça. Donc, l'histoire va se déployer en quelques pages, puis ensuite, le lendemain, il va trouver autre chose. Les illustrations sont faites par Isabelle Brouillette, qui est mon amie de toujours, qui avait toujours dessiné de façon très discrète chez elle. Elle faisait des carnets de voyage, elle faisait... elle a toujours très, très bien dessiné. Elle faisait des aquarelles et tout ça. Et moi, je l'ai provoquée un peu. J'ai eu cette idée-là. Un soir, chez moi, je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce qui se passerait si mon enfant, tu sais, j'ai trois enfants, puis je me dis, ah, il y a plein de choses en dessous de mon fauteuil, il y a plein de choses en dessous de leur lit, il y a plein de choses. Fait qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de jouets, s'il n'y avait rien dans la maison, juste des trucs qu'on trouve. Donc, c'était de faire place à toute l'imagination de l'enfant. Alors, c'est ça. Donc, les illustrations sont faites par Isabelle. C'est magnifique. Donc, c'est toujours des scènes différentes. Donc, on se retrouve dans l'océan, on se retrouve dans l'espace, on se retrouve en camping, on se retrouve dans le désert. Tu sais, il y a toujours des environnements différents. J'ai découvert l'école d'art il y a quelques années parce que... on s'est acheté une maison de campagne ici, pas loin, à Brôme. Puis on a beaucoup, beaucoup d'amis ici dans les cantons de l'Est. Et je me suis fait présenter Anne-Marie, le cerveau, les bras, les jambes de toute cette histoire, ce lieu formidable. Puis je suis vraiment tombée en amour comme plusieurs. On est tombé en amour avec cet espace où tout est possible. Je trouve que l'école d'art, c'est un lieu où tout est magnifié. On part de murs de béton, d'un espace vide, puis à chaque fois qu'il y a des événements, à chaque fois que je me retrouve ici, l'espace est reconfiguré. On se donne la possibilité, c'est comme à chaque fois une page blanche, puis on crée. Donc je trouve que c'est vraiment dirigé de façon minutieuse, intelligente et très libre. Donc, ma fille, la plus jeune, est venue au camp de jour, ici, à l'école d'art. On a vu des projections. On a fait, tu sais, j'ai essayé de participer à plusieurs événements, le petit salon du livre. Je trouve que c'est vraiment un endroit qui mérite d'être découvert, puis en même temps, pas trop, parce que je trouve que c'est super que ça reste un espèce de joyau un peu caché. Je trouve que ça fait tout le charme de cet espace-là magnifique.
Aventure de découverte au petit salon du livre continue. avec Isabelle Arsenault, illustratrice renommée qui partage son approche artistique unique et ses projets à Nolden.
Bonjour, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici. Mon nom est Isabelle Arsenault, je suis illustratrice. Je fais des livres pour enfants principalement. Peut-être que vous avez déjà vu mon travail en librairie. J'écris quelques livres et j'en illustre pour d'autres auteurs. Donc, principalement avec Fanny Britt au Québec, La bande du Myland, une série que j'ai aussi écrite. Donc, peut-être que vous avez déjà vu ça quelque part. J'ai une agente qui me représente aux États-Unis, puis elle m'envoie des textes, donc j'ai l'occasion de lire différents types de manuscrits qui me sont proposés, puis j'ai la chance de pouvoir choisir à travers ça, mais je reçois aussi des textes au Québec, puis c'est vraiment un coup de cœur à chaque fois. C'est vraiment, il faut vraiment que je sente que l'histoire me parle, puis que c'est un sujet qui me touche ou que le type d'écriture est inspirante. Donc, ça prend vraiment des mots qui sont à la base très proches de ce que j'ai en tête comme visuel. Donc, ça, c'est sûr que ça aide. Puis après, des fois, des rencontres aussi, des connexions avec des gens comme avec Fanny Britt, c'était ça. J'ai illustré son premier livre avec elle, c'était Jane Le Renard et moi, la première collaboration qu'on a faite ensemble. Puis c'était vraiment un contact super riche parce que on avait le même genre d'intérêt visuel, mais aussi créatif. Puis le visuel faisait écho à son texte qui était pour moi très inspirant. Puis on a continué notre collaboration par après pour deux autres livres, Louis parmi les spectres et Truffe, notre dernière collaboration. Puis ça, c'est vraiment une chance de rencontrer un auteur dont les mots sont aussi près de notre source d'inspiration première. Moi, ce qui me touche, c'est quand c'est fait de façon traditionnelle, quand on sent l'humain derrière, quand on peut voir quelques imperfections, des erreurs inattendues, disons, pas des erreurs, mais j'aime quand c'est fait avec un médium traditionnel qui pardonne pas, donc que ce soit l'aquarelle, la gouache, qu'on sente la matière, puis c'est à travers ça qu'on sent un peu l'humanité derrière, parce que les médiums qui sont plus digitaux, ça me touche moins, c'est plus froid pour moi. C'est pas parce que ça fait des couleurs très saturées que ça me parle à moi. Peut-être que les enfants sont accrochés par ça, peut-être, mais moi, en général, je pense que c'est pas nécessairement ce type de couleurs ou de rendu qui les touche nécessairement, mais c'est plus l'histoire qu'il y a derrière le livre, le scénario. Puis des fois aussi les enfants sont surpris par le type de rendu qu'on utilise, donc pour certains de mes livres je travaille que à la mine de plomb, donc c'est un médium très simple qui, s'il est bien utilisé, peut créer des effets intéressants. Pour moi c'est ça, c'est plus la manière qu'on utilise le médium, puis de sentir le médium aussi, que c'est ça qui me touche le plus. Dans le travail des illustrateurs que j'admire, c'est vraiment ça. C'est le geste n'est pas le même lorsque c'est fait avec une tablette graphique, disons, ou c'est fait avec de l'eau, du crayon, de la matière. Donc, on sent la richesse. Puis c'est un autre niveau, pour moi, qui se rapproche plus de mon idéal de ce que c'est. Un livre d'art, oui. Non, je suis venue la première fois l'année dernière seulement, mais ça faisait longtemps que j'en entendais parler, puis j'avais hâte de venir ici. J'adore l'École d'art de Sutton, c'est un super lieu, c'est un projet incroyable. Oui, nous, on a un projet à plus petite échelle, c'est pas un bâtiment aussi important, mais à Knowlton, on a un projet de résidence d'illustration qui va ouvrir ses portes au printemps prochain. Et on a un bâtiment aussi à rénover d'ici là. Mais c'est bien parti. On a fait une super campagne de sous-financement dernièrement. Puis on a eu l'appui de on atteint notre objectif. On a eu beaucoup d'appui par rapport à ça, des commentaires incroyables. Puis, oui, Leporello, c'est, vous pouvez aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez suivre le développement de notre projet, on a, c'est ça, notre projet, c'est une résidence d'illustrateurs où il va y avoir une partie atelier où les illustrateurs en résidence vont pouvoir avoir accès à différents médiums pour explorer différents types d'outils pour produire des séries, des petites séries limitées qui vont être offertes et exposées en boutique. Donc, c'est un beau concept qui va mettre de l'avant le métier d'illustrateur, un métier méconnu qui mérite une vraie belle vitrine.
Les enfants de la maternelle Passerelle des Mousses ont eu l'opportunité de visiter l'École d'art de Sutton dans le cadre du petit Salon du livre 5e édition.
Mais des fois, les colères, ça peut provoquer des petits miracles. Et tout d'un coup, ses pieds changent de couleur.
Et rose.
Rose. Puis savez-vous pourquoi les pieds deviennent roses?
Pourquoi? À cause de la couleur.
Parce que quand on mélange des couleurs, ça donne une autre couleur.
Je le savais, moi.
Ouais. Alors, avec quoi on mélange le rouge pour faire du rose?
Du transparent.
Du transparent ou bien...
Du blanc.
Ou bien du blanc. Alors, le nuage qui est blanc, ben, quand le rouge est en colère, ben, le blanc et le rouge, ça donne du rose.
Je vous invite à rencontrer Geneviève Després, illustratrice de plus de 50 livres jeunesse établie à Montréal. Elle est ici au Petit Salon du Livre pour nous parler de son nouveau livre, « Si j'avais su ».
Bien, bonjour, je m'appelle Geneviève Després. Je suis illustratrice depuis une vingtaine d'années, mais spécialisée en illustration jeunesse, en littérature jeunesse, depuis une quinzaine d'années environ.
Bienvenue. Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à l'École d'art de Sutton?
En fait, c'est mon deuxième petit salon de Sutton. L'an passé, en fait, c'est un ami qui m'a parlé du petit salon et je me suis inscrite. Et cette année, j'ai décidé de revenir parce que j'avais aimé l'expérience de l'an dernier. Et aussi pour présenter mon premier album que j'ai écrit et illustré parce que j'en ai illustré plus d'une quarantaine. Mais c'est mon premier qui s'appelle « Si j'avais su ». C'est le premier que j'ai écrit, qui est sorti au mois d'avril dernier.
Merci beaucoup. Et vous êtes vraiment spécialisée dans les athlètes jeunesse. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui vous parle dans ce médium particulier?
Ben, c'est la créativité, l'attitude, toute la liberté qu'on peut avoir. Quand on reçoit un texte d'un auteur, l'auteur, son travail, c'est d'écrire une histoire et nous, c'est de l'illustrer. Alors, souvent, on n'a pas de contact avec l'auteur. C'est vraiment notre travail qu'on imagine comme on veut. La meilleure façon d'illustrer le texte sans nécessairement illustrer chaque mot, hein, parce que c'est pas intéressant.
Et puis, est-ce que vous êtes tellement, vous avez tellement de connaissances sur les techniques différentes de l'art, comment est-ce que vous choisissez vos techniques?
Je n'aime pas la routine. Alors, comme là, je viens de faire un livre, je viens de terminer un livre au pastel et au crayon de bois. Donc, mon prochain, il ne sera pas au pastel et crayon de bois parce que je veux toucher à autre chose. Je travaille beaucoup l'aquarelle et la gouache. Mais là, de ce temps-ci, c'est ça. J'avais envie de travailler le pastel et le prochain va sûrement être à la gouache ou à l'acrylique, à l'acrylat, en fait. Puis selon la thématique aussi, si c'est un livre qui se passe dans l'eau, ben peut-être que je vais utiliser plus l'aquarelle. Ou ça va dépendre de la thématique du livre.
Thank you.
on a beaucoup parlé d'ouvrages jeunesse. Et maintenant, je vous invite à rencontrer José Blanchette, notre prochaine invitée, qui nous parle de son livre Presque Vierge, un récit personnel qui relève de ses années entre 15 et 20 ans.
Bonjour, je m'appelle José Blanchette, je suis auteure, journaliste, chroniqueuse au Devoir notamment. Et puis voilà, je suis venue vous parler de Presque Vierge, mon dernier ouvrage, qui est un récit personnel sur une période de ma vie qui s'étire de l'âge de 15 à 20 ans, dont plusieurs chapitres se déroulent dans la région d'Abercorn, dans les cantons de l'Est. Ah, mais ça a été assez étonnant de voir les réactions. D'abord parce que il y en a de toutes sortes, là. Il y a beaucoup de gens qui sont reconnus, beaucoup de femmes qui sont reconnues là-dedans. Presque Vierge, donc, raconte mon histoire à 15 ans avec mon professeur de philo au cégep. Histoire d'amour. Mais en fait, je réalise en 2018, parce qu'il était condamné pour pédophilie, que cette histoire, le fond d'écran était pas celui que je pensais. Donc, j'ai ressorti la caisse de lettres, bon, parce qu'on est pré-technologie, là, on est en 1978, début 80. Donc, j'ai ressorti la caisse de lettres, d'échanges, de journaux intimes, de travaux de cégep, de tout ce que j'avais conservé. Heureusement, parce que ça m'a beaucoup aidé à écrire le livre. Et donc, 40-quelques années plus tard, je revisite cette histoire-là, alors que mon fils a lui-même 15 ans, qu'il ramène des jeunes filles de 15 ans à la maison, que je réalise l'âge que j'avais, que je relis les lettres et toutes les cartes et tout ce que ce prof m'écrivait, que je réalise que j'avais été pendant 5 ans de ma vie avec un prédateur sexuel. Donc, c'est une histoire revisitée, une histoire d'amour revisitée. Mais je la raconte pas du tout de façon dramatique, ni il n'y a pas de revanche dans ce livre-là. C'est vraiment, je la raconte du point de vue, essentiellement, là, du point de vue de la jeune fille que j'étais. Donc, je laisse le lecteur faire une partie du travail. Il n'y en a aucun.
Ouais.
J'avais zéro... j'avais pas d'expérience de la vie ni de l'amour. C'était fantasmatique. En fait, c'était une histoire de littérature, l'amour. C'est plus des choses qu'on lit dans les livres à cet âge-là. Donc, c'est ça. C'est la réception, ben, elle est de plusieurs ordres pour finir par répondre à la question. Mais donc, elle est à plusieurs niveaux. Il y a des femmes qui ont vécu la même chose. Il y en a d'autres qui ont vécu des choses similaires. Bon, mais quand on est dans les zones d'abus et de consentement, on rejoint beaucoup de gens et beaucoup de femmes notamment. Donc, mais il y a des hommes aussi qui m'ont lu. Ça m'a pas étonnée, mais je suis réjouie aussi. Et puis en même temps, ben il y a eu des réactions assez bizarres du victim shaming, blaming, ce qu'on retrouve, moi j'étais pas au courant de ça, mais en fait c'est un classique. T'es victime d'un viol, c'est le seul crime pour lequel la victime a honte. Alors t'as honte, mais moi j'ai pas eu honte là, mais il reste que on me blâmait, on a tendance à chercher des coupables pas là où ils sont. C'est ça qui est bizarre. J'ai pas écrit ce livre-là pour moi, je l'ai écrit pour libérer la parole des femmes. Ça m'a rien guéri du tout, parce que de toute façon, je pense pas qu'on guérit les choses, en tout cas en ce qui me concerne, puis quand même je connais assez d'auteurs pour savoir que c'est pas nécessairement par là que ça passe, mais j'étais contente. Disons que ça, pour moi, ça s'inscrit dans le mouvement MeToo, ça s'inscrit aussi dans une prise de parole. J'ai réalisé avec ce livre-là aussi combien les femmes avaient peur de parler. C'est incroyable, incroyable. Alors moi, j'ai pas de misère avec ça. Donc, si je peux parler pour les autres, tant mieux. C'est ce que j'ai fait, c'est mon métier, mais c'est aussi mon tempérament. Donc, puis j'avais aussi tout le matériel que j'avais gardé, ça, c'est tellement précieux. Ça change tout, écrire un livre avec. Parce que, comme je suis journaliste, c'est sûr que moi, dès que j'ai du matériel d'archives, ben là, je suis heureuse, je pars. C'est beaucoup plus facile parce que j'ai rien inventé. Je me suis appuyée, j'ai passé un été à tout relire, tout. Et là, de là, je suis partie, puis j'ai écrit un premier jet, ce qu'Alexandre Jardin appelle le monstre. Alors, j'ai écrit le monstre, et après, ben, je l'ai laissé dormir, parce que j'ai écrit un autre roman en attendant, ben, pas en attendant, mais en tout cas, dans les entrefaites, j'ai écrit mon jeune amant français. Après ça, je suis revenue à Presque Vierge, et là, je l'ai sorti en 2024. Donc, ça a été un long accouchement, disons. Mais celui-là a été particulièrement long. Beaucoup de première écriture, beaucoup de réécriture, beaucoup d'épuration. J'avais du matériel pour 500 pages, mais je me suis arrêtée à 200 quelques pages parce qu'à un moment donné, on a compris. On n'a pas besoin d'écrire 500 pages pour mieux comprendre c'est quoi une histoire d'abus, mais c'est pas raconté de façon lourde, ce qui fait que ça se lit facilement, je crois. Je raconte une histoire. Donc, je suis une conteuse, moi, dans la vie, c'est ce que je fais. Ça me fait plaisir, Yona. Merci pour l'invitation.
Je vous invite à continuer à découvrir le livre sous toutes ses formes, comme livre audio, adaptation théâtrale au cinéma ou même roman graphique. J'ai eu le privilège de discuter avec Raymond Cloutier, comédien de renommée.
Ah ben, bonjour, Raymond Cloutier. Je suis d'abord acteur et puis auteur. J'écris et je publie depuis 1998, j'ai une dizaine de livres là, en tablette, sur la tablette. Et bon, j'ai toujours écrit surtout de la poésie et j'ai aussi créé plusieurs spectacles de théâtre dont j'ai écrit les chansons et les canevas. Alors voilà, je suis un acteur-auteur.
Oui, et puis vous avez aussi créé beaucoup d'audiolivres.
Oui, j'ai eu le privilège de faire tous les livres de Louise Penny, donc les 20 romans. Je viens de faire le dernier, Le Loup Gris, pour audible.ca, là, le site de téléchargement des audiolivres. Et donc, j'ai dû lire autour de 10 000 pages là, pour faire le tour de l'œuvre de Penny, qui, à peu près, les romans toujours autour de 500 pages, en français en tout cas. Et j'ai fait aussi le dernier roman de Joseph Facal, et quelques autres aussi. J'adore ça, j'aime ça faire ça, beaucoup.
Donc c'est comme une combinaison parfaite de... votre côté auteur et votre côté acteur, en fait, d'incarner ces...
Oui, mais au théâtre, on incarne des auteurs toujours. Enfin, le théâtre étant une partie de la littérature importante, on n'y pense pas. C'est très, très peu souvent que les gens lisent du théâtre et ils devraient le faire. Parce que une des vertus de la littérature, c'est le fait que le lecteur devient un metteur en scène. Alors, on ouvre le livre, on commence l'histoire, donc on s'aperçoit pas, et puis il faut se rendre compte de ça. On crée les décors, on voit les personnages, on entend les voix, les hauteurs et les voix, les qualités. Alors, on est des créateurs de théâtre ou de cinéma, en lisant le livre, et on s'aperçoit pas qu'on a tous ce talent-là, et c'est ça le grand plaisir de lire, c'est d'être les créateurs de l'imaginaire, de la scénographie, des plans de cinéma. On voit tout ça, on oublie cette fonction-là, et c'est un grand privilège. Donc, je disais ça parce que si les gens prenaient conscience de ça, ils achèteraient beaucoup de si on aime lire, d'œuvres théâtrales. Donc, on a seulement les dialogues à ce moment-là, et c'est encore plus fort, parce que là, on a tout ce qui est autour du dialogue, l'odeur, les couleurs, les lieux, les personnes, on doit tout inventer ça en lisant, et on a cette faculté-là. On lit avec les yeux, mais probablement encore plus quand on le reçoit dans les oreilles, parce que là, on n'a pas la tâche d'avoir les yeux ouverts, le livre, tourner la page. Il y a un petit truc là qui nous distrait, si on veut, alors que avec les écouteurs dans les oreilles, là, les yeux fermés, souvent les gens font ça au lit ou beaucoup utilisent ça dans la voiture lors de longs voyages. Donc là, on pour toutes sortes de raisons là, mais je me demande si on est distrait par ça ou si on est concentré sur la route. Probablement, parce que c'est pas différent de la radio et tout ça quand on écoute la radio parler. Bon, mais c'est sûr que on est dans un voyage dans l'imagination, et on l'a tous, cette imagination là et faut s'en rendre compte. Moi, j'ai c'est pas une vantardise là, mais j'ai un don pour la lecture à première vue. Alors j'ai toujours eu, adolescent, je m'en suis rendu compte assez rapidement, et d'autres ont de la difficulté à faire ça, parce que il faut c'est un don qu'ont tous les musiciens probablement, parce que si on est musicien, il faut lire la mesure à venir pendant qu'on joue la mesure présente. On est obligé de devancer. Donc, quand on fait la lecture audio, il faut lire la phrase suivante en disant la phrase précédente. Alors, faut mettre l'œil toujours. Alors, c'est un réflexe. Je sais pas si on peut comment s'exercer à ça, probablement, mais je faisais ça un peu naturellement. Et faut dire aussi qu'on est une génération, moi je suis assez âgé, j'ai 80 ans maintenant, et on est une génération qui a beaucoup lu. On est obligé, enfin, dans notre cours classique ou secondaire là, et un peu plus tard, on devait lire beaucoup, et probablement que ça compte énormément, parce qu'aujourd'hui c'est moins important. On lit beaucoup à cause de probablement des réseaux sociaux, Internet. Il y a beaucoup de lectures, mais c'est pas tout à fait la même. Je sais pas pourquoi.
Immersion.
Je sais pas trop, mais je sais. J'ai été à la direction du conservatoire pendant 12 ans d'art dramatique à Montréal, et puis quand on fait des productions de théâtre en troisième année, par exemple, et que donc la première répétition, on s'assoit autour de la table puis on doit lire la pièce. Alors, par exemple, si on doit lire, disons un Molière, là, en général, là, un Tartuffe ou le Misanthrope, là, ça dure à peu près la lecture, là, parce qu'on fait pas de pause, pas d'entracte, là, 1h20 à peu près. Bon. Alors, quand j'étais au conservatoire, moi, comme étudiant, on prenait à peu près, mais c'est pas 1h20 parce qu'on arrêtait un peu, mais mettons qu'on prenait 2 heures maximum pour lire un Tartuffe ou le Misanthrope. Et quand j'étais directeur du conservatoire, là, le même Molière prenait à peu près 4 heures de lecture, tellement les élèves butaient sur le fait de lire à première vue. Et puis souvent, c'est en vers, c'est en alexandrin, c'est difficile, mais cette difficulté-là, parce que à la première lecture, on demande pas d'être des bons acteurs, on ne demande pas d'être des bons lecteurs d'alexandrin, mais on demande que de lire, que les mots sortent là, et ça sort pas. C'est très difficile dans les générations où dans les années 80-90. Là, maintenant, je sais pas, peut-être que ça a changé, mais il y avait quand même une baisse. C'est parce que, ah oui, c'était aussi des élèves qui venaient d'une transformation de l'enseignement du français et au primaire, quand on apprend à lire. C'était différent. Il y avait eu une époque, et je pense que c'est changé, mais où on apprenait au son. Alors, nous, on n'apprenait pas au son, là, comme tel. C'était, on apprenait les lettres, et puis, on n'était pas aux syllabes. On n'apprenait pas la syllabe comme telle. Alors, là, il y a eu, je pense que c'est, ils ont arrêté ça, là. Alors, voilà, excusez-moi, je me suis étendu sur une partie de...
énormément à l'École d'art, notre collaboration avec vous. Vous êtes impliqué depuis plusieurs années, je pense, avec le petit cerveau du livre.
Oui, autrement aussi, je suis pas sur le conseil d'administration, je suis pas bénévole, là, je devrais, parce que j'ai pas eu le temps de le faire, mais oui, je suis très près de Anne-Marie et de du projet depuis le début. Les salons, c'est évident, depuis le premier, le tout petit premier, mais là, c'est plus un petit salon maintenant, là, wow, cette année, Non. Pour moi, là, j'en ai fait plusieurs salons, Québec, Montréal, Trois-Rivières, mais bon, un peu partout. Et j'ai jamais vu une ambiance. C'est pas l'ambiance, en fait, au départ. L'ambiance est créée par l'environnement, qui est chaud. C'est comme dans un salon, dans une maison, là. C'est l'endroit où il y a le foyer, l'ambiance, le calme, il y a un certain décorum, mais en même temps, une certaine aise. Et, c'est pas bruyant, c'est pas frénétique, c'est pas, comme je viens de le vivre à Montréal, là, pendant deux jours, c'est la folie furieuse, là. Alors, oui, ailleurs. Alors, c'est un vrai salon, là, dans le sens domestique du mot.
Familial.
Exact, aussi, oui.
C'était la musique de Maryse Legagneur, harpiste, musicothérapeute et cinéaste. Notre exploration du livre sous toutes ses formes continue avec Caton, illustratrice montréalaise de bande dessinée.
Moi, je viens de Québec, puis j'ai déménagé à Montréal en 2010 pour aller étudier en arts visuels à l'UQAM. Puis au travers de ça, comme à côté, je faisais de la bande dessinée, un peu pour le fun aussi au début. Puis, rendu à Montréal, c'est là que j'ai rencontré comme d'autres auteurs de bande dessinée qui allaient faire ça comme de leur vie peu après ou qui faisaient déjà, qui publiaient déjà. Puis, je suis comme un peu tombée en amour avec le milieu, là, vu que c'était. Je trouvais que le milieu, la bande dessinée, en tout cas, j'ai découvert ça, ça me semblait très accueillant. On dirait que personne n'est vraiment dans la compétition. Puis en tout cas, les gens m'ont facilement comme accueilli puis montré un peu comment ça marchait. Puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que mon premier livre, j'ai commencé par faire un peu comme des fanzines, de l'autopublication, qui était un petit peu plus aussi autobio. Puis éventuellement, mon premier livre, c'était La liste des choses qui existent, qui est publiée à la Pastèque, que j'ai faite en collaboration avec Iris. Puis après ça, moi aussi, je pense qu'en tout, j'ai comme peut-être une dizaine ou douzaine de livres. Il y a comme une partie qui est vraiment plus comme de la bande dessinée, tout public, comme adulte, humoristique. Puis il y a une autre partie qui est des livres, des albums, puis des bandes dessinées jeunesse, comme à partir de 5 ans à peu près, qui sont publiés chez Comme des Géants, chez Fonfon. Puis c'est ça. La plupart de mes derniers livres pour adultes sont publiés chez Papaw.
Puis dans vos deux cas, vous travaillez beaucoup avec le réel, qui est un peu le sujet de la discussion aujourd'hui. Puis moi, je suis curieux de voir, tu l'as dit un peu tantôt, Pascal, mais que tu t'es trouvé à travailler en autobio parce que tu ne savais pas trop quoi raconter d'autre, mais tu as continué depuis. Et puis moi, ça me fascine, tu sais, comment tu continues de te nourrir de ce qui t'entoure, en fait, de ta vie, quoi, puis... Puis si vous avez pas lu Pascal, mais on sait jamais vraiment, tu sais, si c'est vrai ou pas. Puis il joue avec ça d'une façon très fine, même je dirais merveilleuse. Et puis donc, mais je suis curieux comment ça se passe ton processus là.
Je ne sais pas. Je pense que depuis... je pense que quand j'ai commencé, la plupart des gens que je lisais faisaient de l'autobiographie. Donc, si tu lis, Guy Delisle, Michel Rabagliati, Julie Doucet, tout ça, ils font tout de l'autobiographie. Donc, je pense qu'au départ, je l'ai fait parce que on cherche un peu des modèles puis des repères. Donc, puis après ça, ben c'est devenu... On dirait que je suis allé un peu vers la fiction, mais peut-être que c'est comme mon cerveau est fait. Je sais pas que... J'ai de la difficulté à vraiment complètement inventer à partir de quelque chose qui n'existe pas. Mais je pense que ce que j'aime aussi en bande dessinée, puis je pense j'ai toujours des carnets sur moi aussi, puis je dessine des vrais endroits. Donc, si j'étais ici, assis ici, je pourrais commencer à dessiner. Puis après ça, quand tu commences à faire une histoire, au lieu d'inventer à partir de toute pièce le lieu, ben je vais aller voir dans mon carnet, puis je vais dessiner ces places-là. Donc, je pense que cette pratique-là va comme influencer aussi le pour mes histoires. Donc, de faire du carnet, ça met, c'est plus facile de prendre des vrais lieux. Je ne ferais pas un livre qui se passe à Tokyo si je ne suis jamais allé à Tokyo, là, par exemple. Donc, j'ai fait un livre qui se passe en Saskatchewan, c'est parce que je connais la Saskatchewan. Mais, puis aussi, je ne sais pas, la vie est assez inspirante. Comme en ce moment, des fois, c'est de la comédie, mais aussi, je suis travailleur social, je travaille à l'hôpital, puis j'ai jamais trop mis ça dans mes livres, mais ça m'inspire quand même de plus en plus. Donc, même si je fais une fiction avec ça, des fois, ça peut être inspiré un peu de tout ce bassin-là ou d'idées. Mais quand les gens me posent la question, on dirait que c'est des choses que c'est comme ça que je travaille, puis j'ai jamais trop réfléchi pourquoi je fais ça. Parce que des fois, les gens me posent des questions, puis je sais jamais trop quoi répondre. C'est juste comme si c'est quelque chose qui est comme... ouais, naturel, un peu. Ou, c'est pas je l'intellectualise pas, là, mais... Merci.
Ouais. Puis, un des éléments aussi qui est très distinctif de ton travail, Pascal, c'est la façon que tu nourris le malaise dans tes scènes, dans tes histoires, les personnages. Puis, tu sais, je suis curieux de voir parce que tu as publié beaucoup d'ouvrages, puis tu as souvent eu des commentaires de lecteurs. Ouais. Comment ça se passe à ce niveau-là? Que tu aimes ça, jouer avec ça?
Mais j'adore. C'est juste que c'est l'humour. C'est ça qui me fait rire, des fois, les malaises, les choses comme ça. Donc, au départ, quand je fais des bandes dessinées, mais j'espère qu'elles vont plaire à tout le monde qui vont les lire, mais je les fais pour me faire rire aussi. Je me rappelle le premier livre que j'avais fait, un livre qui s'appelle Conventum, dans le temps, puis je vais essayer de faire un livre qui me fait rire pour de vrai, moi, là. Donc c'était juste rempli de malaise. Puis après ça, ben j'ai un peu continué là-dedans. Mais je pense que dans la vraie vie, je suis travailleur social aussi, donc je suis capable de parler au monde, là. C'est pas des malaises. Mais des fois, il se passe quelque chose, puis là, tu dis, ah, si ça s'était passé comme ça, ou tu le tournes un peu, puis c'est là que je trouve l'humour, je pense. C'est un peu ça. Mais dans la vraie vie, j'aime pas tant les malaises.
Ouais. C'est difficile à croire quand on te lit, mais
ouais.
On va le prendre, on va le prendre. Puis toi, Catherine, comment ça se passe pour la création, quand tu travailles sur du matériel, des anecdotes, des histoires comme ça, comment ça se passe?
C'est ça, moi, c'est vraiment une pratique que j'ai à côté des livres de fiction que je fais. Fait qu'il y a une partie vraiment qui est plus comme inspirée de la de culture populaire. Mettons, il y a plusieurs de mes derniers livres qui sont un peu comme sur le mode enquête policière, mais un peu comme détourné, humoristique. Puis ça, c'est comme une partie des choses qui m'intéressent. Mais au travers de ça, ça fait comme peut-être 7-8 ans que j'ai comme des petits carnets, un peu comme Pascal, puis que de temps en temps, je vais... Ben quand même souvent, là, ces temps-ci, je vais faire plus des strips comme ceux-là quand mes amis disent quelque chose de drôle. Je vois, tu sais, je parle à des inconnus dans la rue. En fait, les inconnus me parlent beaucoup dans la rue. C'est ça l'affaire. J'ai vraiment une face que les gens m'abordent dans la rue pour me raconter leur vie. Ou comme, je pense que je fais comme peut-être 1 ou 2 secondes de eye contact trop long avec les gens en général. Puis là, ils sont comme, cette femme veut parler. Fait que là...
Quelle expérience incroyable que de rencontrer tous ces auteurs et artistes talentueux. Où va le prochain petit salon du livre? J'ai rencontré le commissaire Frédéric pour qu'il nous parle de sa vision du petit salon.
Oui, Frédéric Gauthier, cofondateur des éditions de la Pastèque et cofondateur du projet L'Eporello, qui est un projet qui va être dédié à l'illustration à Knowlton en Estrie.
Oui, super. Et qu'est-ce qui vous amène au Petit Salon aujourd'hui?
Qu'est-ce qui nous amène au Petit Salon? C'est une collaboration qui est existante depuis 2 ans déjà. Donc, comme éditeur, on a participé à 2 éditions du Petit Salon avec la Pastèque. On a nos livres qui sont présents ici au Salon. On a des auteurs qui viennent en dédicace. Et on apprécie beaucoup ce Petit Salon, son petit côté convivial. L'endroit est tout à fait majestueux. Donc, tout ça met ensemble fait qu'on a développé une affection pour le Petit Salon. Et ensuite, une collaboration aussi avec le projet L'Eporello, donc on développe depuis 1 an et demi à Knowlton. Et on collabore avec l'École d'art depuis l'été dernier. Donc, L'Eporello a produit des petits carnets pour les camps d'été.
Oui, c'était très beau.
Qui sont disponibles en vente au Petit Salon cette année. Mm-hmm.
Et c'était très beau.
On va étendre plus largement la collaboration dans la prochaine année. Et durant les derniers mois, on a appris à se connaître plus largement, en proximité avec Anne-Marie. Puis elle m'a demandé d'être commissaire sur le Petit Salon cette année pour essayer d'apporter un angle différent au Petit Salon, qui est un salon qui se concentre principalement aux auteurs de la région, ce qui est une très bonne base en soi. Oui. Mais en tout cas, à mon avis, je voyais ça très rapidement se limiter pour le futur, l'expansion du Petit Salon.
Oui, je comprends.
Mais je tiens à rassurer tout le monde. On ne veut pas que le Petit Salon devienne un gros événement impersonnel et tout. On veut garder son petit côté très niché, régional. C'est très, très important. Mm-hmm. L'idée, c'est de bâtir petit à petit pour amener un côté unique à l'événement. Moi, j'ai proposé cette année d'avoir un éditeur en vedette.
Oui.
Donc, on met le focus cette année sur les éditions Pawpaw.
Oui.
C'est une jeune maison d'édition, jeune, 15 ans quand même, mm-hmm. mais avec un catalogue de bandes dessinées, jeune adulte, jeune lecteur, qui est très, très populaire un peu partout. Mm-hmm. Des livres qui sont adaptés au théâtre, au cinéma, des auteurs qui commencent à être plus reconnus largement en librairie, dans les médias. Mm-hmm. Et je trouvais aussi que c'était une occasion de faire découvrir cette maison d'édition au public du Petit Salon, à Sutton, ici. Mais aussi, j'ai proposé qu'il y ait une exposition de planches originales durant le Petit Salon. Donc, ça permet aux gens d'avoir une connexion visuelle avec la création. Donc, parce que souvent, quand on est dans une bande dessinée, on regarde, tout est nettoyé, tout est propre. Et quand on voit les originaux, mais on voit que tout le travail qui est derrière, mm-hmm. la création visuelle, la recherche qui est faite.
Oui, tout ce travail, oui.
Exact. Donc, l'idée, c'est d'avoir d'étendre un peu la portée de la maison d'édition en vedette et des auteurs qui vont venir durant les 2 prochains week-ends pour rencontrer les lecteurs. Donc, c'est un petit peu l'idée cette année de mettre les bases de certains éléments qui vont, je l'espère, revenir dans les prochaines années. Donc, l'exposition, un éditeur en vedette. Et dans les prochaines années, l'idée, ce serait d'essayer de rajeunir un petit peu les visiteurs et d'étendre aussi la portée du Petit Salon au-delà de Sutton ou des villes avoisinantes, là, qu'on s'étende jusqu'à Sherbrooke ou peut-être un peu Montréal, sans nécessairement vouloir courir après ces visiteurs-là, mais qu'ils sentent l'appel de la qualité de la programmation. Et aussi, cet heureux mélange, puisque le salon, c'est un mélange de rencontres littéraires, mais il y a aussi du cinéma, il y a de la musique, il y a plein mm-hmm. d'éléments. Et je trouve que ça donne une juste image de ce que l'École d'art est dans sa personnalité, dans son entité.
Oui, très vivant, très jeune.
Exact. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça. Je pense que l'idée, c'est d'être très, très proche des fondements de l'École d'art et des valeurs véhiculées ici à Sutton, en région. Et pas jamais perdre ça de vue, mais que le Petit Salon puisse évoluer tranquillement.
Ce projet est rendu possible par le gouvernement du Canada ainsi que le Fonds canadien de la radio communautaire.